Salut Rémi, merci beaucoup d'être avec moi dans ce podcast, dans cette nouvelle interview. C'est ma deuxième interview sur ce nouveau format de podcast où je parle beaucoup tout seul dans des petites notes courtes, mais je suis content aussi d'avoir l'occasion de rencontrer des gens. Donc toi, tu es un expert du sujet un petit peu du numérique responsable. Et on est rentré en contact parce que Carole Kinawa, qui fait une petite dédicace, nous a envoyé dans le cercle des Ops une ressource hyper intéressante que t'as mis en place, enfin un ensemble de ressources, une collection qui s'appelle IA Frugal. Voilà un site que t'as fait où il y a 31 ressources, iafrugal.org. Évidemment, je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Et donc voilà, et donc je t'ai proposé, et tu as accepté qu'on échange ensemble, voilà, plutôt que je parle tout seul de ce que tu as mis en place. C'est plus intéressant et ça permet surtout de placer vraiment un sujet que je trouve dont on ne parle pas assez, qui est le numérique responsable de manière générale, la sobriété numérique, la frugalité, toutes ces choses-là. Bref, ce que je te propose peut-être pour commencer justement, c'est de te présenter et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet.
Merci, bonjour Alexis et bonjour à toutes et à tous. Mais ravi de participer à ce podcast. De mon côté, je suis spécialiste du numérique responsable depuis quelques années désormais. Ça doit faire 6-7 ans que je m'investis sur cette thématique. D'abord, en fait, j'ai essayé de... Voilà, je suis passé un peu du marketing digital dans un premier temps au numérique responsable, surtout parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu ma propre prise de conscience sur les enjeux environnementaux, la nécessité d'une transition écologique. Et donc, je me suis dit, en fait, à quelle échelle, en fait, je peux potentiellement l'appliquer dans mon métier. Cette transition, elle a été assez naturelle parce que je pense que c'était quand même quelque chose qui était assez sous-jacent. Et donc, finalement, je me suis investi entre 2020 et début 2023 avec l'Institut du numérique responsable qui est une association de référence sur le sujet du numérique responsable et qui aide les organisations à opérer leur transformation dans leur manière de gérer leur transition digitale et de comprendre finalement les différents impacts du numérique. Dans cette fenêtre-là et dans la manière, je dirais, où l'Institut du numérique responsable a un petit peu posé les choses avec d'autres associations, avec des précurseurs en amont de l'Institut du numérique responsable, comme Frédéric Bordage, on peut citer, de Green IT. On va dire que le curseur a été très positionné sur les enjeux environnementaux en particulier. Et je pense que ça, c'est important de mentionner que c'est sans doute un prisme du numérique responsable, mais selon les personnes finalement avec qui on discute, d'autres vont avoir un prisme beaucoup plus social. Et en fait, je dirais que l'enjeu, c'est d'arriver à coupler tous ces sujets et de bien comprendre que d'une part, ils sont difficilement dissociables. On pourra y revenir sur l'impact de l'intelligence artificielle. Et également, en fait, de comprendre que finalement, l'enjeu est d'arriver effectivement à travailler sur ces deux sujets. De mon côté, du coup, j'ai creusé, on va dire, ces deux aspects-là sur le numérique. Et aujourd'hui, en fait, je creuse ces sujets en fait dans une fonction de journaliste spécialisé donc sur le numérique responsable. Et peu à peu, j'ai été peut-être contraint et forcé, mais en tout cas, je l'ai fait avec intérêt de m'intéresser donc à l'intelligence artificielle qui depuis 2023 ne fait que prendre de plus en plus de place. Et en particulier, effectivement, j'ai commencé à défricher l'objet d'une IA qui serait dite frugale, avec une grande question de est-ce que ces termes qui peuvent peut-être passer pour une oxymore quelque part sont associables ou non.
Ouais, on va revenir dessus. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper vaste et moi j'aime bien. Enfin, sur ton site, tu dis tout de suite que il y a le sujet de l'urgence climatique, mais aussi celui de la justice sociale. C'est des choses qui vont vraiment ensemble. Et c'est vrai que notre discussion, si elle se résumait à juste dire l'IA ou le numérique consomme trop d'énergie, en fait, ça serait vraiment passé à côté, je pense, de beaucoup de choses. Mais justement, peut-être, toi, avant qu'on rentre vraiment sur le sujet de l'IA, parce que c'est celui qui nous intéresse, enfin qui est le buzz du moment. Mais si on parle vraiment de numérique responsable, toi, quelque part, comment est-ce que tu définirais les enjeux peut-être de ça? Je ne sais pas forcément même par quel bout prendre, tellement ça peut être vaste, mais alors, quels sont les axes
que... Pour moi, le plus simple, c'est souvent quand même de faire revenir un petit peu les choses dans une vue de la transition écologique de manière générale. Parfois, on va dire que il y a des associations d'idées en fait qui voudraient dire que l'enjeu, c'est d'arriver à travailler à la fois sur l'économie, sur la planète et sur les personnes, donc le côté social. Bon. Le gros, en fait, pour moi, le gros sujet, en fait, c'est surtout déjà de revenir à la première chose, c'est que si la Terre ne va pas bien, l'humain ne va pas bien et l'économie n'ira pas bien. Et moi, j'ai un exemple qui est très simple en général et sur lequel j'aime bien revenir, c'est que globalement, quand il fait, et on a connu ces températures en France, quand il fait entre 40 et 45 degrés, bon, je ne sais pas toi, Alexis, mais moi, personnellement, je ne vais pas très, très bien. Même, alors à moins que j'ai la climatisation à fond et que je me mette dans une bulle, mais même ça, en fait, à un moment donné, je vais être exposé à la chaleur. Et donc, si je vais moins bien, en fait, bien, donc là, déjà 40-45 degrés en France, c'est la planète qui va moins bien. L'humain va moins bien. Et donc, en fait, il va produire moins. Et donc, il va être moins efficace. Donc, l'économie va aller moins bien. Et donc, on voit bien, en fait, que ce n'est pas travailler sur les trois. C'est qu'en fait, la planète est déjà le socle assez essentiel, qui est ce plancher, en fait, qu'on doit absolument respecter. Et au-dessus, en fait, bah, il y a le social. Et le social, bah, lui aussi, si on ne respecte pas, bah, on voit bien que l'économie, elle ne va pas marcher non plus. Et donc, on doit trouver, en fait, quelque chose qui est entre les deux. Alors ça, c'est rien de nouveau. Hein. C'est notamment, je dirais, inspiré de l'économie du donut, donc dans lequel, en fait, on doit finalement, en fait, trouver un juste équilibre entre être dans le cercle de la planète, je dirais, et puis dans le plafond du social. Mais déjà, en fait, pour moi, c'est là, en fait, qu'on doit essayer de repositionner le numérique, ce qui est loin d'être simple parce que aujourd'hui tout le numérique, il est basé au niveau environnemental sur des outils ultra complexes, ultra technologiques, qui nécessitent de fait des ressources qui sont très difficiles à capter, on va dire, et qui fait que ça nécessite beaucoup d'énergie, que ça détruit en partie la planète, que ça nécessite beaucoup d'eau, etc., etc., qu'il faut énormément d'énergie pour les faire fonctionner. Donc déjà, en fait, de base, le numérique se positionne sur quelque chose qui, au niveau environnemental, est difficilement compatible. Et en plus, au niveau social, bien, si on regarde déjà la base de sa fabrication, là aussi, il y a des impacts qui sont assez conséquents. Je prends juste deux exemples donc, qu'on commence quand même à connaître. Mais sur l'extraction des ressources, bien, il y a énormément en fait, de violence, on va dire, pour rester simple. Mais franchement, on pourrait aller beaucoup, beaucoup dans le détail, qui sont commises notamment en République démocratique du Congo. Et donc des populations qui sont largement malmenées par cette situation. Et puis un deuxième exemple, pour l'intelligence artificielle, hein, on le sait, et c'est pas la seule, hein, mais pour l'intelligence artificielle par exemple, il y a énormément de personnes qui sont amenées à travailler pour labelliser des contenus afin d'identifier exactement ce qu'ils veulent dire, et qu'ils font dans des conditions qui sont extrêmement précaires. Donc voilà, je dirais que le gros problème du numérique, voilà, c'est que déjà, en fait, il part assez mal avec que ce soit sur le côté social ou le côté environnemental. Et d'ailleurs, sur le côté social, j'ai parlé du côté amont, mais il y a bien sûr, en fait, tout le côté réception, entre guillemets. Là aussi, on peut parler vite fait d'intelligence artificielle sur toutes les questions que ça pose, sur... les emplois demain, sur les conséquences cognitives. Je lisais encore ce matin un article sur les personnes qui tombent amoureuses de leur ChatGPT personnalisé. Voilà, ça pose énormément de questions. Et donc voilà, le numérique, en fait, est à la fois une formidable opportunité de faire plein de choses qui peuvent être hyper intéressantes, et en même temps, on voit bien que le cadre, en fait, du numérique est déjà presque irresponsable par nature, entre guillemets.
Et alors, justement, si on... Là, je trouve que tu as très bien posé un petit peu les enjeux. et montrer un peu cette dualité entre l'impact social, sociétal, et puis la question de l'environnement et pas le climat. Tu as parlé de frugalité, tu n'as pas encore prononcé, je crois, le mot sobriété, mais justement, si on voit ces gens-là, donc les solutions, en quelque sorte, ou en tout cas, voilà, quel est un petit peu, justement,
la manière dont je vois le sujet, quand on parle de sobriété, pour moi, c'est plutôt ça va être une posture, une démarche. Une démarche plus qu'une posture d'ailleurs, une posture ça pourrait prêter à quelque chose de simplement faire pour faire, alors que la démarche ouais. Il y a quelque chose de plus vertueux derrière.
Volontaire.
L'idée de la sobriété est plutôt d'effectivement d'aller installer une capacité finalement à regarder le numérique et en faire un usage qui va être le plus raisonné possible et le plus limité possible, dans le sens où on va sans doute beaucoup considérer les alternatives possibles et être moins dans un excès. En fait, aujourd'hui, on voit bien, et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu du terme sobriété, c'est de s'opposer à l'ébriété. Et aujourd'hui, on est effectivement plutôt dans une ébriété numérique. On l'évoquait ensemble juste avant d'enregistrer sur le fait aujourd'hui de produire un podcast et finalement d'envoyer la vidéo en même temps que le son. On voit bien qu'en fait, il y a de l'ébriété là-dedans. C'est-à-dire que si on décide de faire un podcast, c'est pour le son et pas forcément pour la vidéo, mais l'ébriété nous permet de faire les deux. Donc c'est réadopter en fait des codes qui vont essayer de nous donner une capacité à être plus maîtrisés. Mais à ce propos, d'ailleurs, je pense que la sobriété numérique, en fait, elle s'applique à tout plein de cas de sobriété. On voit que on est aussi dans une ébriété de la voiture quand on regarde les chiffres où aujourd'hui on a encore une majorité de trajets de 1 ou 2 kilomètres qui se font en voiture alors qu'on pourrait les faire à vélo. Voilà, donc là, c'est exactement la même comparaison, c'est revenir à des usages plus raisonnés et qui encore une fois aussi comprennent les enjeux de frontières planétaires. Si on définit plutôt la frugalité, moi je le vois plutôt comme un sujet technique, dans le sens en fait là où la frugalité, on va plutôt en fait aller la chercher sur des algorithmes, sur une capacité en fait à créer de la technologie qui va chercher finalement à être la moins consommatrice possible d'énergie, de ressources, de data, par exemple, pour finalement avoir quelque chose qui soit le plus léger possible et qui ait le moins d'impact possible. Ce qui, je trouve, est intéressant dans la définition aujourd'hui qui est apportée de l'intelligence artificielle frugale, c'est qu'il y a eu tout un travail qui a été fait et on reviendra dessus, notamment à travers donc, ce qu'on appelle l'AFNOR spec, on va dire le début d'une norme sur ce sujet. C'est que la définition ne s'est néanmoins pas limitée à dire on va seulement dire on fait des algorithmes qui soient les plus légers possibles, entre guillemets, mais on va avoir une vision plus systémique. Et ça, c'est un point qui est assez essentiel et sur lequel on va revenir parce que on comprend bien qu'en fait, aujourd'hui, quand on cherche juste la frugalité pour la frugalité, c'est l'histoire globalement de l'industrialisation dans laquelle on est depuis au moins 1850. C'est qu'à chaque fois qu'on optimise pour faire quelque chose de plus léger, eh bien, en fait, on crée ce qu'on appelle l'effet rebond, qui est la surutilisation finalement de ce qu'on a optimisé. Et donc, en fait, on ne fait que créer, encore une fois, finalement, plus d'empreintes que ce qui a pu être fait auparavant. On va revenir sur cet enjeu de dire, oui, c'est important dans la frugalité de travailler des algorithmes qui soient les plus légers possibles, encore une fois, pour simplifier le propos. Mais attention, il faut avoir une vue plus systémique que ça.
Ouais, je vais rebondir sur l'effet rebond, c'est pas une très mauvaise transition, c'est vrai faut tout de suite souligner ce truc-là qui est important, on peut l'illustrer avec ça, c'est-à-dire que si on arrive à faire des algorithmes, donc des IA, admettons, qui consomment moins, que ce soit d'électricité, de ressources, etc., mais qu'on s'en sert 4 fois plus qu'avant, on n'a rien gagné, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir bien ça en tête, même pour la suite, effectivement, de la conversation, parce que moi, je pense que pour moi, la frugalité, elle va tout comme tu disais dans la sobriété, pour la frugalité, elle va un petit peu plus généralement dans notre quotidien, sans tomber dans les clichés qu'on nous a dit, des amis, de la lampe à, lampe à huile, ou je sais plus, enfin, toutes ces bêtises. Mais moi, par exemple, un truc qui me choque beaucoup, c'est les ordinateurs qu'on utilise, généralement, sont beaucoup trop puissants par rapport à ce qu'on en fait, ce que font la plupart des gens. Les téléphones, j'en parle même pas. On parlait de la vidéo 4K, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, c'est là où il y a des progrès un petit peu au nom de l'innovation, je trouve, où on est arrivé sur des choses pas du tout frugales.
Ce que tu dis me semble assez essentiel, parce que je pense que c'est aussi bien de relativiser. Enfin, moi c'est vrai que dans mon métier, dans le numérique responsable de manière générale, il y a une emphase qui est faite sur l'empreinte environnementale de l'IA comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est malgré tout de relativiser par rapport à l'ensemble du numérique. Et je discutais avec un chercheur belge à ce sujet. Il me disait, parfois, on est peut-être un peu trop sévère avec les nouvelles technologies. Parce qu'on le voit bien, en fait, en réalité, on est très sévère finalement avec l'intelligence artificielle, mais ce que tu mentionnes sur la puissance de nos ordinateurs, de nos téléphones, etc., bien, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un ChatGPT est 1000 fois trop puissant finalement pour juste une demande simple, mais de la même manière, en fait, nos ordinateurs sont bourrés de technologies qui sont beaucoup trop complexes finalement par rapport à l'utilisation qu'on en a. Donc, effectivement, la stratégie globale, en fait, elle doit être pensée et on ne peut pas juste taper sur quelque chose et ne pas regarder le reste.
Ouais, et c'est pour ça que je trouvais que c'était bien de placer un peu justement dans ce contexte du numérique. Bon, il y a beaucoup aussi de ressources là-dessus et à la fin, de toute façon, je te demanderai un petit peu justement des ressources un peu générales pour creuser le sujet. Mais si on se focus vraiment donc sur la question de l'IA, déjà moi j'ai été assez surpris donc de découvrir sur ton site cette norme AFNOR, donc cette spec en fait, pas encore une norme effectivement. Donc c'est un travail, donc c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail qui s'est penché là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que toi, tu as fait partie de ce groupe de travail ou juste tu as découvert ça après? Enfin...
Non, j'ai découvert cela après, à la sortie. En fait, ce qui est intéressant, donc, c'est que c'est un travail qui a été piloté par le ministère de la Transition écologique avec une personne qui est assez connue dans le milieu qui s'appelle Juliette Fropier. Et ce travail, en fait, a mobilisé donc, un certain nombre d'expertes et d'experts. Et ce qu'il en ressort, déjà, en fait, le premier point, c'est oui, c'est assez surprenant et en même temps, c'est une très bonne initiative puisque le rôle, en fait, de ces AFNOR specs, c'est finalement d'établir donc, une pré-norme qui a vocation à unifier un petit peu la manière dont on parle d'intelligence artificielle frugale, ce qui fait que déjà ça permet de limiter, on va dire, les revendications des uns et des autres sans avoir fait un travail préalable de compréhension de ce qu'est vraiment l'IA frugale. Et puis ensuite, l'enjeu, c'est que quand on a une pré-norme, c'est qu'on va aller plus facilement finalement vers une norme potentiellement européenne, ce qui est un des objectifs affichés dans le cadre du travail qui a été mené. Donc déjà, c'est des étapes qui sont très intéressantes pour poser des choses qui peuvent porter demain à une plus large échelle. Deuxième chose, c'est que le contenu en lui-même est aussi assez intéressant parce qu'encore une fois, il pose la question de la vue systémique. Il pose les questions des vues, des optimisations techniques à réaliser, ce qui est évidemment essentiel donc pour réduire l'empreinte de l'intelligence artificielle. Mais aussi, donc, il vient poser la question plus systémique de avez-vous réellement pensé la finalité des usages de votre intelligence artificielle? Et bien sinon, est-ce que vous allez pouvoir vous prévaloir en fait de faire de l'IA frugale? Sachant que globalement, ce qui est posé en creux, c'est bien, est-ce qu'on peut se revendiquer faire de l'IA frugale finalement pour n'importe quoi entre guillemets? L'exemple le plus simple est est-ce que je peux créer de l'IA frugale pour permettre de trouver plus facilement des puits de pétrole? On voit bien qu'effectivement il y aurait un problème et donc là c'est pas écrit noir sur blanc en fait, et si vraiment vous allez dans le document vous allez voir que c'est pas écrit noir sur blanc, mais par contre il y a tellement de conditions qui sont posées pour interroger le projet en amont, pour également montrer comment on peut communiquer sur un projet dit d'IA frugal en aval, que finalement, il y a tellement de conditions qui sont posées que une IA qui voudrait se revendiquer frugale alors qu'elle n'a pas fait les efforts nécessaires pour réellement questionner cette finalité des usages et est-ce que ça, finalement, rentre dans les frontières planétaires ou non, eh bien, ne pourrait pas le faire en réalité. Donc, je trouve que c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on ne pose pas seulement la question technique, mais on pose une question plus globale qui est, mais est-ce que ce service, finalement, a du sens par rapport à nos enjeux de respect des frontières planétaires qui, aujourd'hui, sont déjà largement excédés.
Et justement, sur ces questions des usages, c'est vrai que c'est effectivement très intéressant que ça s'intéresse aussi à ça. Moi, c'est vrai que je m'attendais à plus d'un quelque chose de technique, on va dire, d'avoir une définition un peu technique, et ce qui est pertinent aussi. Mais peut-être rapidement, justement, de toi, de ton prisme, c'est quoi les problèmes, les problématiques de l'IA, les sujets éthiques, probablement, enfin, autour des usages, justement, de l'IA.
Alors, bon, il y a énormément de questions qui se posent. C'en est presque vertigineux, en fait, tellement il y a de questions qui se posent. Peut-être que la première, en fait, question et la première problématique au niveau éthique, elle est d'abord centrée sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive et il y a un discours dominant qui s'installe comme quoi il faut absolument, finalement, passer par l'IA pour réussir et pour résoudre nos problèmes. Et ça, c'est aujourd'hui, alors on le voit dans des discussions, dernièrement j'ai été en marge de l'AI Action Summit, j'ai été au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Il y avait des débats très intéressants justement sur le fait que l'IA est imposée au sein des administrations publiques, entre autres, et qu'en fait, en réalité, ben, le retour sur investissement, si je puis dire, est difficile à mesurer, voire même que ça crée en fait un certain nombre de problèmes d'opacité dans les réponses transmises aux administrés, que ça crée de la surcharge de travail à droite à gauche, etc. Donc, il y a en fait aujourd'hui quelque chose qui se passe, qui est l'IA en fait est introduite à marche forcée un petit peu partout, sans finalement réellement se poser la question du gain à moyen et long terme, s'il est réel ou non. Et très clairement, la question peut complètement se poser parce que bien peut-être qu'à court terme, on peut peut-être voir des choses et encore, ça se questionne aussi selon les métiers. Et à moyen et long terme, en fait, aujourd'hui, on n'a pas fait suffisamment de recul et on ne se pose pas cette question, finalement, sur les réelles conséquences. Moi, je parle souvent de... Voilà, enfin, la grande problématique qui se pose quand même, c'est que quand on accélère, en fait, les choses aujourd'hui, puisque c'est un des objectifs de l'IA, on se pose rarement la question, en fait, ou encore trop peu, de « mais pourquoi est-ce qu'on veut accélérer ?» Moi, j'y suis souvent, hein, c'est que si on veut accélérer finalement pour simplement redonner du temps libre aux gens ou leur donner la possibilité de plus se consacrer à la transition écologique et sociale, pourquoi pas. Par contre, si c'est pour faire des gains qui pourraient peut-être permettre de supprimer des emplois et ou augmenter la productivité pour créer plus de consommation, je ne suis pas tout à fait certain aujourd'hui que en fait, ce soit compatible avec notre problématique qui est le dépassement des frontières planétaires et donc que ce soit compatible avec la transition écologique. Et je pense que ça, cette question-là, en fait, elle est assez essentielle. Donc voilà, donc si on part déjà juste de ce point-là, au niveau éthique, en fait, c'est la problématique de l'intégration à marche forcée qui se fait sans énorme prise de recul finalement, qui serait tout à fait nécessaire. Et déjà, rien que ça, c'est déjà en fait un énorme bout. Pour le reste, après, eh bien, on a toutes les problématiques en fait de d'éthique des données qui sont là aussi quelque chose d'assez essentiel. Où vont les données qui sont envoyées dans ces outils d'une part, et d'où viennent les données également qui en fait ont été prises sur le web. Alors je vais peut-être pas dire le mot piller, mais en tout cas c'est des questions qui peuvent se poser, à quel point on est autorisé, ces outils-là sont autorisés à récupérer des données qui peuvent être protégées par des droits d'auteur, etc. etc.
Ah, il y a tellement de sujets, comme tu dis, c'est un peu vertigineux. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais bon, j'essaie de rester un peu circonscrit. Juste si je me fais un peu, pas l'avocat du diable, mais bon, on entend des voix. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, oui, mais en fait, grâce à l'IA, tout justement, enfin, les accélérationnistes, comme on appelle ça, enfin, qui disent, bon, grâce à l'IA, en fait, on va résoudre tous ces problèmes, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, bon, moi, j'en serais ravi, hein, honnêtement. Il y a juste un petit problème, en fait, là-dedans, c'est que on voit, en fait, une immense promesse. Je discutais avec quelqu'un de la Quadrature du Net dernièrement. La Quadrature du Net, c'est une association assez engagée. Et il me disait, il y a une forme de béatitude, en fait, devant les promesses de la technologie, de l'IA en particulier. Et je le rejoins assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a cette idée que ça va permettre de tout résoudre, mais pour l'instant, en fait, on cherche les preuves. Donc, je dirais que je questionne, en fait, à quel point les preuves vont réellement arriver et à quel coût, en fait, à quel coût on va, elles vont arriver, puisqu'aujourd'hui, on a une débauche d'énergie et de ressources qui sont loin d'être soutenables. La deuxième chose aussi qui me vient en tête, c'est qu'aujourd'hui, tous les apports de la numérisation et de l'hypernumérisation, je dirais, ne nous ont pas non plus apporté finalement tant que ça les réponses à différentes promesses formulées. Je vais prendre juste un exemple. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. C'est on nous a promis, en fait, avec la technologie, qu'il y a quand même pas mal de choses qui allaient se simplifier dans nos échanges, etc. Bon, a priori, il faut quand même revenir un peu en arrière maintenant, parce qu'on commence à vieillir, mais il y a 30 ans, allez, 30, 35, allez, 40 ans, on va dire. Il y a 40 ans, en tout cas, on avait le téléphone et le courrier. Est-ce qu'aujourd'hui, on se sent plus libre d'avoir LinkedIn en messagerie, plus WhatsApp, plus les messages, plus le portable, plus Teams, plus Slack? Je ne suis pas tout à fait certain. Et notamment, ça fait dire à certains nombres, alors vous le retrouverez d'ailleurs dans le site IA Frugal, j'ai référencé le manifeste qui s'appelle Technoréaliste, le manifeste Technoréaliste sur l'IA. Et ce manifeste, en fait, justement, lui, enfin, une des positions, c'est de dire il y a beaucoup, en fait, de bureaucratisation qui s'ajoute. En fait, la technologie apporte de la bureaucratisation parce que c'est des process en plus, notamment, et finalement, ce que peut-être on veut gagner d'un côté, on le perd de l'autre. Donc voilà, je pense que l'enjeu, c'est de toujours, et je pense que dans les deux positions, c'est pas être dans le refus de quelque chose. Par contre, c'est d'être dans le questionnement, et je crois que ça, c'est une position qui est intéressante. Et comme tu le disais tout à l'heure, hein, l'idée, c'est pas de se renvoyer dos à dos. C'est pas les amis d'un côté contre ceux qui croient en la technologie de l'autre. Non, je crois que c'est en tout cas oser questionner les choses et oser dire, bien sûr, pourquoi pas la promesse de la transition écologique par la technologie, pourquoi pas. Maintenant, on en attend les preuves et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me positionne plutôt sur une transition écologique qui va passer plutôt par un retour vers le vivant, vers la nature, que vers le trop de technologie. Mais voilà, ça reste un point de vue et peut-être que s'il y a des preuves qui arrivent par la technologie, ben on les prendra aussi.
De manière très, très concrète, justement pour en venir à ce site de ressources que tu as mis en place, qu'est-ce que les gens qui ont été un petit peu, peut-être, un peu, donc, dont cette discussion a un peu éveillé la curiosité, qui ont décidé de se poser quelques questions, parce que quand tu as dit ça tout à l'heure, moi je pense que c'est la première chose à faire, déjà, c'est juste se poser des questions. Je pense que déjà, faire preuve un petit peu de bon sens, bon, ça aidera un peu les choses. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens vont trouver aussi sur ton site? Enfin, voilà, un peu, c'est quoi les prochaines étapes?
Je dirais que ce qui est intéressant déjà, c'est que le site permet aussi de... en fait, le site a pour objectif de faire quoi? De mettre des ressources ensemble, de les commenter et de finalement donner des indications sur ce que les visiteuses et visiteurs vont pouvoir y trouver d'intéressant. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est montrer déjà qu'il y a une forme de mobilisation pour... évaluer l'empreinte de l'IA, pour trouver des solutions techniques pour en diminuer l'empreinte, mais également aussi pour expliciter ce qu'est l'IA. Et sur ce site, en fait, on trouve aussi des éléments qui permettent de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, la différence entre l'intelligence artificielle générative et d'autres intelligences artificielles, pour aussi démystifier un petit peu les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands enjeux, en fait, c'est qu'on est aussi dans une mystification et on a mis un terme assez générique qui s'appelle IA sur beaucoup de choses. Et on voit en fait par les différents rapports que j'ai référencés, par les différentes, on va dire, propositions techniques des uns et des autres, que on parle beaucoup d'algorithmes qu'on a finalement déjà connus, mais avec des nouvelles choses, des nouveaux ajouts, etc. Et je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu, c'est de montrer que bien sûr qu'il y a des choses qui sont nouvelles, mais qu'on reste sur de la technologie, et donc qu'il y a des solutions techniques, il y a des solutions systémiques, et puis que justement, en fait, elles sont aussi déjà appliquées aujourd'hui à certains cas d'usage, pardon, et c'est ce que j'ai voulu aussi mettre en valeur, de montrer qu'il y a des projets qui sont en cours, qui se penchent de manière concrète sur comment apporter des solutions techniques qui vont chercher à être les moins énergivores possibles, et ce qui fait qu'on trouve à la fois de la ressource qui est, on va dire, plutôt théorique, mais également des choses plus concrètes qui permettent donc de, je dirais, bien se saisir du sujet et arriver à mieux l'embrasser pour avoir une position la plus critique possible, dans le sens où, encore une fois, la critique, c'est avoir une position qui est, enfin, une capacité, en fait, à s'exprimer sur le sujet, que ce soit de manière négative ou positive, mais en tout cas, je dirais, mieux le regarder en face, parce qu'aujourd'hui, bien, voilà, le sujet, il est là, et on se doit toutes et tous de s'en saisir pour pouvoir en faire ce qu'on aimerait demain, et idéalement le mettre plutôt au service de la transition écologique et sociale plutôt que d'autres choses.
Ce que je comprends, c'est que tu penses qu'il faut s'éduquer avant tout, quoi. Il n'y a pas de solution concrète. Il faut que les gens s'éduquent sur la question, se fassent un avis et puis puissent s'y faire des choix, enfin faire preuve plus de discernement, quoi.
Il faut que celles et ceux qui sont en fait référentes et référents dans les entreprises sur ces sujets numériques et d'IA soient les premiers et les premières motrices et moteurs en fait pour effectivement éduquer, enfin en tout cas faire connaître ces enjeux et montrer finalement comment on peut s'en saisir, on doit s'en saisir ou non, et montrer les intérêts et les choses négatives, et démystifier encore une fois ce sujet, parce que à la fois il fait encore très peur à beaucoup de monde, et d'autres y voient énormément de promesses, et il faut trouver la juste balance, ce qui n'est pas forcément simple, mais oui, c'est en s'éduquant effectivement qu'on va mieux se saisir, je dirais, de ce sujet, et ça me semble tout à fait essentiel.
Si je caricature un peu, t'as pas trouvé une IA miracle qui consomme pas beaucoup et qui serait la solution que tout le monde pourrait utiliser?
Non, de la même façon, je pense que c'est loin d'être, c'est pas tout à fait l'enjeu. Encore une fois, je pense que l'enjeu, il est surtout bien sûr qu'encore une fois, et on en revient à la même question, l'enjeu d'avoir techniquement des choses plus frugales est essentiel pour des usages du coup qui vont être moins impactants. Mais c'est surtout en fait en questionnant ce que l'on fait avec l'IA qu'on sera plutôt en capacité d'avoir moins d'impact ou un impact plus positif. Parce que c'est bien ça l'enjeu en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'IA, pourquoi et pour quelle finalité en fait on l'utilise. C'est avant tout là aussi qu'on va trouver des réponses qui vont nous permettre d'avoir les usages les plus sensés et les plus utiles pour toutes et tous, et le climat en fait que l'on aimerait sauvegarder.
Je pense que quand on parle trop de la partie technique, on passe un peu à côté de beaucoup de choses que tu as évoquées sur les usages, les enjeux éthiques, etc., même si évidemment c'est important, mais c'est pas la consommation, le sujet de l'électricité. Moi je dirais que, moi, de mon point de vue en tout cas, un truc, encore une fois, que les gens se posent la question, c'est juste déjà d'utiliser ou non, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on dit avec l'électricité. C'est-à-dire que la meilleure électricité, c'est juste celle qu'on n'a pas consommée, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis on s'attend et on le voit déjà venir, en fait, que peu à peu, les premières estimations, peut-être elles auront été surélevées ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, évidemment, les grandes entreprises qui sont dans l'intelligence artificielle cherchent à, elles aussi, faire des algorithmes qui soient toujours plus efficients, optimisés, Parce que elle aussi, en fait, ça. Alors, elles le font peut-être pas pour la planète entre guillemets, mais au niveau économique, mais évidemment que ça pèse d'avoir des ressources qui consomment énormément, que d'avoir des puces qui soient extrêmement chères, etc., etc. Donc finalement, effectivement, si on se bat un peu trop, je dirais, sur les chiffres exacts de combien ça consomme, etc. Demain, on va avoir une étude qui va dire ah bah finalement on a surélevé les chiffres, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé récemment. Et puis il va y avoir une nouvelle IA qui va dire ah bah oui, moi je suis extrêmement frugal, donc il y a plus de soucis, etc. Non, l'enjeu effectivement c'est que dans tous les cas, et tu l'as très bien dit, c'est que on doit surtout en fait se questionner, puisque finalement la meilleure consommation de l'IA c'est déjà celle qu'on ne fait pas. Et encore une fois voilà, ça permet de bien remettre finalement la question centrale au milieu, qui est que faisons-nous finalement de la technologie, et ce qui est une question qui n'est pas facile à résoudre, mais qui est de loin la plus essentielle, je crois.
Écoute, merci, c'était hyper intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, vraiment. Mais on va suivre tout ça un petit peu avec attention. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un an, ou je ne sais pas, justement, pour voir les évolutions. Ça serait intéressant. Parce que,
merci pour l'invitation.
Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Donc, je mettrai le lien, évidemment, vers iafrugal.org. Vraiment un très beau travail, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un truc que j'apprécie juste pour... que tu n'as pas mentionné, c'est que donc il y a un nombre limité de ressources. C'est vraiment que tu as, je ne sais pas quel est le bon mot, curationné, j'allais dire, ce n'est pas du tout un mot français, mais que tu as choisi, ou que tu commentes, etc. Ce n'est pas juste une liste de ressources, parce que peut-être que je l'ai un peu présenté comme ça aussi au début.
Il y a 31 ressources et je vais en garder 31. C'est un clin d'œil au fait que dans la FNORSPEC, il y a 31 bonnes pratiques qui ont été listées. Et j'ai déjà en fait une mise à jour là qui est prévue avec quatre nouvelles ressources, et je vais remplacer en fait quatre ressources parce qu'elles sont peut-être un peu moins pertinentes, etc. L'objectif c'est de rester à 31 pour éviter que ce soit une liste à la Prévert comme on dit, mais que ça reste le plus pertinent possible et que ça se rapproche toujours plus du sujet de la frugalité.
Non, mais je trouve que c'est bien aussi, parce qu'il y a un truc un petit peu intéressant d'un point de vue pédagogique, on va dire, c'est que ça fait pas peur, quoi. C'est-à-dire, on se dit, potentiellement, c'est possible d'aller regarder les 31 ressources. Si t'avais un truc avec 200, moi, j'ai beaucoup vu ça dans le monde du no-code, il y avait des gens qui listaient tous les outils, t'avais des trucs, des bases de données avec 200 outils, en fait, ça sert à rien. Il y avait aucun parti pris, aucune ligne éditoriale, etc. Donc, bon, voilà, j'espère que ça aura donné envie, là, tout cet échange, ça aura donné envie aux gens de regarder. Est-ce que tu es actif sur des réseaux sociaux? J'imagine pas sur Twitter ou des choses comme ça, mais...
J'ai quitté certains réseaux sociaux par la force des choses, mais en tout cas, je suis présent sur LinkedIn, donc avec plaisir.
Ok, bah, écoute, je mettrai aussi le lien. Merci beaucoup, et puis à très bientôt.
À très bientôt.